7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. À une semaine de l'élection présidentielle en Égypte, nous posons aujourd'hui la question, qu'est-ce qu'être une femme en Égypte aujourd'hui? Dans un pays marqué par le chaos politique et économique, de nombreuses organisations internationales pointent du doigt les discriminations dont sont victimes les Égyptiennes, harcèlement de rue, violences sexuelles, mutilations génitales, difficulté aussi de trouver un emploi. Les femmes sont effectivement dans des situations difficiles, paradoxal. Alors, leur situation peut-elle s'améliorer après le recul post-printemps arabe de 2011? Le climat de défiance politique peut-il faire évoluer les droits des femmes? On va en discuter avec nos invités, l'anglo-égyptienne Shirin El-Fekki, qui est spécialiste de la sexualité dans le monde arabe, la journaliste Delphine Minoui, qui est basée au Caire, et puis une Française, chef d'entreprise en Égypte, qui emploie une majorité de femmes, Nadine Barbier. Et quant à vous, les voisins et les voisines, si vous souhaitez dialoguer, questionner nos invités, vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec le Caire et la journaliste Delphine Minoui, basée au Caire. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante du Figaro en Égypte. Vous avez auparavant été basée d'ailleurs à Beyrouth et puis à Téhéran en Iran, ce qui vous donne des comparaisons intéressantes. Vous travaillez beaucoup sur la question des femmes. C'est vrai que vous avez pas mal écrit là-dessus. Est-ce que aujourd'hui c'est un sujet de débat dans la campagne présidentielle en Égypte ou pas du tout?
À vrai dire, pas vraiment. Les questions principales, on le voit au quotidien, ce sont la sécurité et puis l'emploi. Ce sont deux préoccupations qui animent les esprits à une semaine du scrutin. D'ailleurs, la culture patriarcale qui prévaut encore beaucoup en Égypte, aucun de candidats, donc ni Sisi ni Sabahi, aucun d'entre eux ne s'affiche avec son épouse, que ce soit sur des posters, que ce soit lors de meetings ou même à la télévision. Elles sont complètement invisibles. On ne sait même pas à quoi elles ressemblent.
Ouais. Et est-ce qu'on sait pour qui vont voter les femmes?
Alors, il n'y a pas de statistiques qui nous laissent présupposer ce que pensent les femmes. On aurait plutôt quand même tendance à penser que les Égyptiennes sont plus enclines à voter en faveur du candidat qui représente l'armée, Abdel Fattah El-Sisi, parce que ce sont elles, en fait, les femmes qui ont aussi le plus pâti des restrictions qui ont été imposées sous le règne écourté, je dirais, des frères musulmans, sous la présidence de Morsi. Mais en même temps, il faut être très prudent parce que d'un autre côté, il ne faut pas non plus négliger justement l'abstention d'autres femmes, alors que le pays n'a jamais été aussi divisé, les femmes qui sont dans le clan des supporters des frères, un clan qui est désormais interdit. Je pense à toutes ces femmes dont les maris sont aujourd'hui derrière les barreaux, des femmes qui ont vu leur mari aussi mourir parfois sous leurs yeux pendant la vague de répression. Ces femmes-là, eh bien, on s'attend par contre de passer à une grande abstention pendant le scrutin.
Difficile donc de parler d'un électorat féminin. Alors, toujours est-il que bon, vous, Nadine Barbier, vous êtes une femme chef d'entreprise basée au Caire. Hein. Votre activité, c'est ce qu'on appelle un centre d'appel. Hein.
Tout à fait.
Vous êtes basée là depuis 12 ans. Vous avez créé cette entreprise de toutes pièces. Mm-hmm. Et vous employez une majorité de femmes.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, les femmes sont beaucoup plus stables, finalement. Elles restent beaucoup plus longtemps et puis elles ont beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi. Donc, je trouvais qu'en tant que femme, c'était bien de les aider aussi. J'ai aussi beaucoup de femmes à des niveaux de management aussi dans l'entreprise. Pour moi, c'est une valeur.
Ça discute politique, là, en ce moment, ou pas dans les bureaux chez vous?
Alors, chez moi, déjà, c'était...
1300 employés, hein, je précise quand même. Hein.
Oui.
C'est pas une toute petite PME.
En fait, on a donné comme consigne dès le début qu'on ne parlait ni religion, ni politique dans l'entreprise. Donc, quelque part, les gens n'en parlent pas beaucoup. Simplement, j'ai évidemment des discussions avec quelques-unes et c'est très varié. Je pense qu'il y en a qui veulent voter pour Sabahi, d'autres pour El-Sisi. Mais c'est vrai que El-Sisi remporte quand même beaucoup d'adhésion de la part des femmes, à tel point qu'il n'y a pas très longtemps, des femmes au Caire lui disaient « Sisi, on t'aime » lors d'une réunion. Et il leur a répondu qu'en fait, il allait avoir peut-être des soucis avec leur mari, donc il ne fallait pas qu'elle continue à dire ça.
Ouais, voilà. Alors, on précise, El-Sisi, c'est l'ancien chef de l'armée qui a évincé le président islamiste Mohamed Morsi. Et effectivement, les femmes peuvent imaginer que peut-être leur situation, les droits des femmes pourraient s'améliorer avec lui. Et c'est évidemment aussi lui qui a mené cette violente répression contre les frères musulmans. Et c'est pourquoi Delphine Minoui nous disait que les femmes qui sont plutôt dans l'autre camp et qui ont vu des frères, des cousins emprisonnés auraient des raisons de lui en vouloir. Delphine Minoui, les droits des femmes font l'objet de nombreux rapports d'organisations internationales avec une vision souvent assez dramatique. Hein. Amnesty International prépare d'ailleurs un nouveau rapport pour le mois prochain. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que journaliste basée au Caire ?
Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est que depuis la nouvelle constitution qui a été adoptée il y a quelques mois, les droits des femmes sont largement plus protégés que sous l'époque du président islamiste Mohamed Morsi. Mais en même temps, il y a la loi et puis il y a le quotidien. Et c'est vrai qu'au quotidien, ça reste difficile. Ça reste très difficile d'être une femme aujourd'hui en Égypte. Il y a la pression des traditionalistes, la mouvance islamiste, mais il y a également tout simplement cette culture patriarcale qui est très très forte, je dirais presque une culture machiste, ce qui fait qu'au quotidien, eh bien, on s'en rend compte, les femmes continuent à souffrir de harcèlement sexuel, que ce soit du harcèlement physique, mais aussi, surtout, verbal.
Chérine El-Fekki, alors vous êtes spécialiste de la sexualité dans les pays arabes, vous êtes anglo-égyptienne, vous êtes basée à Londres. Bonjour Chérine El-Fekki.
Bonjour à vous.
Pour vous, justement, y a-t-il une différence entre le tableau brossé par les organisations internationales qui sont évidemment militantes des droits des femmes et puis la réalité peut-être parfois plus complexe?
Je pense que le problème, comme Delphine a dit, on avait de bonnes lois. On avait même en Égypte des meilleures lois plus progressistes envers les droits des femmes depuis l'ère de Moubarak. Mais le problème, comme Delphine a dit, est vraiment sur le terrain. Alors, si je peux parler de l'excision, par exemple. On regarde maintenant en Égypte, on a presque 80% des filles entre 15 et 17 ans sont excisées. Et on avait une loi qui criminalise l'excision depuis 2008. Mais c'est juste maintenant qu'on voit presque le premier procès contre un médecin et le père de petite fille qui est morte pendant cette opération. Alors il y a un grand écart. Oui. Entre la théorie, la loi et la réalité.
Alors, il faut préciser que l'Égypte détient le record mondial, hein, quasiment de la pratique de l'excision. Il n'y a d'ailleurs pas une très grosse différence entre la pratique de l'excision en milieu urbain et milieu rural. Hein.
Ça dépend sur la population. On voit par exemple que parmi des communautés, des femmes qui sont un peu plus éduquées et qui sont un peu plus riches, on voit une prévalence qui est un peu plus moins. Mais le problème c'est le problème sur le terrain, parce que même qu'il y a une loi, j'ai parlé avec beaucoup de femmes qui m'ont dit mais vraiment on doit exiger nos filles et n'importe quelle loi, parce que elles disent, par exemple, c'est quelque chose de religion, mais pas vraiment. Il y a beaucoup d'autorités religieuses qui disent que c'est complètement interdit en chrétienté et même en islam. Mais vraiment, la raison, le fond de l'excision et beaucoup de contrôle sur les femmes dans l'espace politique, économique et même dans la famille, c'est pour contrôler leur sexualité.
Nadine Barbier, concernant cet écart entre ce que dit la loi, là, on avait un bon exemple d'une loi qui a bien été votée en 2008 et qui est très très peu appliquée, et puis la réalité, c'est-à-dire la pratique de l'excision au quotidien.
Oui, je pense que ça s'est quand même amélioré, parce qu'il y a 12 ans, quand je suis arrivée en Égypte, il me semble que les chiffres étaient de l'ordre de plus de 90%. Donc je pense qu'il y a déjà une amélioration. Et c'est vrai que c'est très lié à la culture, à l'éducation, pour faire évoluer ce phénomène-là. Mais je voulais dire aussi que c'est pas du tout religieux, comme l'a dit Chérine. C'est autant les Coptes que les musulmans pratiquent l'excision.
Delphine Minoui, concernant cet écart entre ce que disent les textes, l'avancée en tout cas sur le plan législatif et puis la réalité, c'est particulièrement vrai sur le harcèlement sexuel. Enfin, en tout cas, c'est tout récent, mais ça y est, on a une loi qui vient d'être adoptée qui condamne le harcèlement.
Oui, en effet, depuis le mois d'avril, il y a cette loi en fait qui a clarifié, je dirais, la question du harcèlement sexuel. Une loi existait déjà, mais elle était tellement vague que finalement, elle pouvait très facilement être contournée. Et puis récemment, cet exemple d'un jeune homme qui a finalement été condamné à un an de prison et à une amende assez importante puisqu'elle s'élève à 10 000 livres, c'est-à-dire environ 1 000 euros. Il a été condamné pour avoir agressé verbalement une femme dans une station de métro. Donc c'est une petite avancée, c'est un début, même si dans la pratique, eh bien, je peux vous citer un chiffre récemment des Nations Unies où il rappelle que 99% de femmes qui ont été interrogées lors d'une récente enquête, 99% de ces femmes disent continuer à être victimes de harcèlement sexuel.
Quel que soit leur âge, qu'elles se soient des femmes mariées, des jeunes filles hein, d'ailleurs.
Y compris des femmes voilées, c'est-à-dire que ça concerne toutes les femmes aujourd'hui en Égypte. En parallèle, je pense qu'il faut quand même saluer le travail incroyable de la société civile sur ce sujet, parce qu'elle est partie du principe qu'il ne faut pas attendre d'avoir des lois, qu'il faut faire de la sensibilisation, intervenir dans les rues, faire des manifestations, même se mobiliser à un petit échelon en organisant des polices des mœurs dans le métro pour essayer d'empêcher les agresseurs d'embêter les femmes.
Mais alors là, justement, quand il y a des mesures qui sont prises pour la sécurité des femmes dans les transports publics, sachant qu'une partie des transports sont non mixtes dans le métro, mais il y a tellement de monde que les femmes n'ont pas toujours la possibilité d'être entre femmes dans des wagons. Et puis d'ailleurs, est-ce que ça doit être une fin en soi? Ça peut être discuté, mais ces mesures qui sont prises, ce sont des bénéfices ou bien ce sont des mesures qui sont prises par les transports publics eux-mêmes?
Alors, en ce qui concerne le wagon réservé aux femmes, c'est une décision qui a été prise par les transports publics et ça existe depuis un certain temps. Mais ça ne résout bien sûr pas tous les problèmes parce que ces wagons sont sursaturés et parfois, eh bien, des hommes espiègles en profitent toujours pour se glisser, y compris dans les wagons réservés à la gente féminine, ce qui crée également des problèmes. D'où le besoin de cette société civile de se mobiliser. Et c'est ce qu'on a pu voir au cours de ces derniers mois avec beaucoup de jeunes, et surtout des jeunes femmes, mais également des hommes, ce qui est intéressant, qui ont décidé d'organiser, de s'organiser en policier civil pour prévenir ces incidents ou éventuellement intervenir en cas d'incident pour remettre les agresseurs entre les mains de la vraie police.
Mais vous, par exemple, Delphine Minoui, vous qui avez travaillé pendant de nombreuses années à Téhéran, à Beyrouth, comment se fait-il que le harcèlement de rue, hein, qu'il soit physique ou verbal, soit si répandu que cela en Égypte? Est-ce qu'il y a là une spécificité dans le monde arabe ou pas?
C'est vrai que, ayant vécu dans d'autres pays du monde arabo-musulman, je constate vraiment au quotidien que c'est l'Égypte où les femmes souffrent le plus de ces agressions ou de ce harcèlement sexuel. Quand on parle avec les plus grands spécialistes, les plus grands sociologues qui essayent de décortiquer le problème, eh bien, on fait face à une inconnue. Et on a du mal encore à comprendre pourquoi l'Égypte, pourquoi particulièrement l'Égypte, même s'il y a certaines tendances sociales qui peuvent expliquer ce phénomène, notamment peut-être un certain manque d'éducation, la question machiste, la question de la tradition patriarcale. Et puis aussi, et ça, il ne faut pas le négliger, c'est le facteur économique. Il faut rappeler que dans un pays où les relations sexuelles sont interdites avant le mariage, dans un pays où il y a de grandes difficultés économiques, eh bien les hommes ont du mal à trouver le moyen de se marier jeune. Et on fait face à une grande frustration économique, une grande frustration sexuelle qui s'exprime dans ces cas de harcèlement au quotidien.
Parce que les femmes ne transgressent pas l'interdit, en fait, contrairement à d'autres capitales du monde arabe où il y a une transgression, il y a des relations sexuelles avant le mariage et du coup, on n'est pas dans cette situation de blocage.
À l'exception, je dirais, d'une certaine élite ou d'une classe très très favorisée, ça n'existe pas en effet pour une raison très très simple qui est aussi la surpopulation. Même si un homme et une femme veulent avoir des relations en cachette, c'est quasiment impossible. Vous ne pouvez pas aller vous cacher, ne serait-ce que dans le KGB de l'appartement familial, parce qu'il y a du monde partout. Et bien évidemment, il est impossible de se retrouver dans une petite chambre d'un hôtel, parce qu'à ce moment-là, quand vous rentrez à la réception, on vous demande systématiquement vos papiers et le certificat de mariage.
On parle de la situation des femmes aujourd'hui en Égypte, en compagnie de Delphine Minoui, la correspondante pour Le Figaro, en compagnie de Nadine Barbier, qui est chef d'entreprise basée au Caire, et de Shirin El Fekki, qui est spécialiste de la sexualité dans le monde arabe. On y revient dans quelques minutes.
3, 2, 1. عايزين قانون يخلي البطل يتلم عايزين القانون اللي يبعد عن بلدنا كل الهم هتقولي في قانون هقولك فين يا عم عمال تفعيل معلوم زي الشخص الاصم عايزين قانون يخلي البطل يتلم عايزين القانون اللي يبعد عن بلدنا كل الهم هتقولي في قانون هقولك فين يا عم عمال بورا مش زي ما بتقول عليا مش اخري كورسة ولا هسيبك تهين فيا مش كرافتة تخنقك بس تخليك محترم ولي اصلا انا هعرفك لو كنت عديم الاحترام فكرت تحط نفسك مكان بنت في الشارع حتى انها ثريسة وعمال خطوتها سارع كمان لو حتى عكسها بيجيبوا الغلط عليها مش محترمة لو رديت حتى كرامتك اتهنيها شوية مننا شايفين الحل في الغطا واني لو البنت الدارس مش هتكون متمرمطة ماشي خلينا معاهم للاخر وعايزة اسألهم سؤال مين اكتر بلد فيها حرمان افغانستان اتحكم انت في نفسك ما تتحكمش فيا لو نور الشمس حدك قربك مني اذية دلوقتي بلينا مين اللي عليه الحق ومين لما يقول صح هقوله اني بطل الكم عايزين قانون يبعد عن بلدنا كل الهم هتقولي في قانون هقولك فين يا عم عدم التفاعل مع الوجود زي الشخص الاصم عايزين قانون يخلي المتبعطل يتلم عايزين قانون يبعد عن بلدنا كل الهم هتقولي في قانون هقولك فين يا عم عدم التفاعل مع الوجود زي الشخص الاصم اتكلمي ما انت صوتك عالي من زمان هدي الحيطان ده انت مصدر كل الامان انت اللي ضحيتي بطموحك علشان تربي العيال وعشان تقديم الوظيفة بيكون في شرط الجمال انت اللي حياتك متقسمة تضحية واستغلال بيجوزوكي للمال بدل اللي قلبك ليه ميال من وهي صغيرة بتحافظ على شكلها علشان لازم تبقى حلوة كله يغير منها وبتكبر البنوتة تبقى شاطرة في الدراسة برضو لسه مش كفاية احنا عايزين الجوازة مصطلح تتقلب لو محترمة تبقى خايبة لو اجتماعية وليها دور اخلاقها سايبة طول يلي سايبني وماش عايزني لحتة الدكتور ويوم بطالب بحقي بتوديني الدكتور بتقول لي انت مين ولا فاكر نفسك ايه لو شايفني كل غلط طب من غيري تبقى ايه عايزين قانون يخلي المتبعطر يتلم عايزين القانون اللي يبعد عن بناتنا كل الهم هتقولي في قانون هقولك فين يا عم عدم التفاهم مع الوجود زي الشخص الاصم.
C'est une très jeune rappeuse égyptienne qu'on vient d'entendre qui fait beaucoup parler d'elle, Mayam Mahmoud, elle a 18 ans, c'est une jeune kérote qui a commencé à rapper pour dénoncer justement le harcèlement sexuel dont sont victimes les égyptiennes et puis défendre le droit des femmes en Égypte, souligner l'importance de l'éducation des filles. Justement, Chirnel Fekki, on en parlait du harcèlement, alors que ce soit du harcèlement physique ou du harcèlement verbal. Pour vous, où se situent les racines du problème dans la société égyptienne concernant ce harcèlement qui est devenu un phénomène vraiment totalement quotidien pour les femmes en Égypte?
On doit dire que ce n'est pas une situation unique en Égypte, mais on voit le harcèlement sexuel dans l'emploi et sur la rue aussi dans les autres capitaux. Du monde arabe, mais je pense que les choses sont beaucoup, il y a beaucoup de pression parce qu'on sait que l'Égypte est surpeuplée, il y a une telle densité de la population au Caire et les autres grandes villes. Je pense qu'il y a des gens qui ont dit, ah, c'est à cause de frustration sexuelle des jeunes hommes, ils n'ont pas de travail, ils regardent toujours, ils consomment la pornographie, et en même temps, il y a des femmes dans la rue, elles parlent, elles sont toujours là, elles portent des vêtements qui sont un peu provocants, etc., etc. Ce sont toutes les excuses. Vraiment, je pense que ce n'est pas vraiment un reflet de frustration sexuelle, mais c'est un reflet de frustration dans tous les aspects. C'est comme Delphine a dit, dans l'aspect de politique et surtout économique. Parce qu'on doit savoir que dans un patriarcat, un système autoritaire, si on n'est pas au sommet de pyramide de pouvoir, la vie est tellement difficile. Surtout difficile pour les femmes, mais difficile pour les hommes aussi. Et si on veut regarder comment la situation pour les jeunes hommes peut détériorer, on peut voir l'exemple de Mohamed Bouazizi, le pauvre vendeur de légumes en Tunisie. Qui était si désespéré que le seul pouvoir qu'il reste en sa main est de se suicider. Alors, il y a une telle pression ici. On sait de toutes les recherches qu'on fait sur les violences envers les femmes dans les autres pays dans le monde. Quand on met les hommes sous la pression, économique et pression politique et sociale, par exemple, les hommes se comportent mal. Et si on est dans un système hiérarchisé, ils se comportent mal
Nous allons y revenir, justement, parce que ce phénomène de harcèlement est quand même central dans les problèmes des droits des femmes en Égypte. On y revient.